Bon, je commence par des remerciements à chacun des intervenants. Première question à Stéphanie Gilles-Fontaine. Vous évoquez dans votre intervention, donc, au sujet de l'après-transfert de haine, la haine du groupe à l'endroit de Lacan. Et vous avancez qu'il s'agissait d'une haine à l'endroit de son dire, à l'endroit de son dire d'exception. Alors voilà, est-ce que vous pourriez un peu préciser ça? Et finalement, qu'est-ce que son dire pouvait bien avoir de si particulier pour qu'il ait pu à ce point susciter la haine? Et la deuxième question, c'est du fait que vous évoquez le risque d'une école fondée sur un modèle de secte qui unifie le transfert et qui produit le prêt-à-penser. La question que j'ai par rapport à ce point-là, c'est finalement à quelle demande des psychanalystes pourrait feindre de répondre cette solution-là, cette fausse solution de la secte, même à l'appeler la bonne secte, comme on a entendu dire. Alors, vous remarquez une question cette fois à Colette, et qui d'ailleurs fait suite un peu à la question que je viens d'adresser à Stéphanie. Il y a plusieurs points dans votre intervention qui me semblent en effet permettre de proposer une réponse à cela, à savoir... Ce que vous avez amené, c'est que les transferts pour visent à obtenir une institutionnalisation de l'analyste. Et ceci, vous l'avez rappelé, précisément pour tenter de compenser le fait que l'acte analytique, lui, ne donne pas de substance identitaire, en imaginaire. Et du coup, ça me faisait me souvenir que dans le texte de Lacan, Situation de la psychanalyse, Lacan compare bien à une école de dentiste. Du côté, voilà, là aussi du professionnel, en plus c'est pareil, on choisit une école de dentiste. Difficile de parler quand on est sur le... Alors en cela, vous indiquez aussi que ces transferts visent à fonder une identité de psychanalyse, voire, on pourrait dire, une identité de lacanien, lequel pourrait comme ça reconnaître dans son cercle, trouver son réconfort, hein, son confort. Et à cela, vous opposez donc l'extraterritorialité de l'analyste. Alors du coup, ça m'a amené à me poser la question suivante, donc je vous adresse... Finalement, comment faire d'une école un lieu qui soit autre chose qu'un cercle ségrégant, qu'un cercle identitaire? Parce que je trouve que c'est quand même ça aussi, parce que vous amenez là le risque que ça montre. Et je me souvenais que Lacan, par rapport à cela, par rapport à cette dimension identitaire, avait prophétisé que, alors il disait ça, je ne sais plus, aux années 70, il disait, dans 20 ans, tout le monde sera lacanien. Et il ajoutait, c'est-à-dire aussi bête qu'avant. Et à ça, précisément, il oppose ce qu'il appelle le savoir-lire du psychanalyste. Alors j'ai trouvé que ça résonnait grandement avec tout ce que vous avez amené sur la place et la fonction de l'enseignement de Lacan dans l'école, et en effet, qu'est-ce qu'on fait de son enseignement? Et par rapport à cela, vous avez donc évoqué la congélisation du vocabulaire lacanien. Congélation du vocabulaire lacanien. Moi-même, rajouter. Alors, au regard de ce diagnostic, finalement, la question que je me posais, parce que c'est un diagnostic grave quand même, enfin, je sais pas si c'est ça, hein, est-ce qu'on serait pas aujourd'hui, s'il n'y aurait pas aujourd'hui la nécessité, finalement, de ce qu'on pourrait appeler un retour à Lacan, là où lui-même a pu parler d'un retour à Freud, à la condition, évidemment, d'interroger ce que ce serait qu'un retour à Lacan, parce que si c'est pour en faire un autre slogan, c'est pas la peine. Donc, voilà, c'est la question que je voulais vous adresser, et si il me semble que oui, ben finalement, comment vous définiriez vous-même ce retour à Lacan? Et à ce sujet-là, ça me faisait penser qu'en présence de Lacan, Foucault avait défini cela comme, je cite... le retour à une œuvre qui rend possible un certain nombre de différences. Je trouvais ça assez joli, voilà, ça me permet de le citer. Marc, je trouve que ton intervention résonne aussi grandement, finalement, un certain nombre de points qu'a amené Colette. Tout d'abord, tu as amené plusieurs dimensions possibles du collectif. Le transfert vertical au chef comme un, conjointement la volonté de dominer le semblable. Je me demandais si tu serais d'accord pour y ajouter une troisième dimension, une troisième velléité, à savoir folklore, toute figure d'altérité. Donc pas seulement dominer le semblable, mais folklore, toute figure d'altérité. Et toute figure d'altérité qui vient d'être précisément décomplétée le petit monde. Hein. Et du coup, ça m'a amené à relire, c'est Elias Canetti qui a écrit un ouvrage remarquable qui s'appelle « Masse et puissance ». Et il commence par dire dans ce bouquin-là que si l'on fait masse, c'est pour esquiver ce qu'il appelle le contact insolite. C'est vraiment s'agglutiner pour être là et pour éviter le contact insolite. Et je me disais que c'est finalement, on entend ça depuis qu'on est enfant, hein, ne pas s'approcher d'un inconnu, surtout pas. Alors, à partir de là, à partir de l'embarras du collectif, une fois déchiffré comme un crâne, tu proposes donc de le laisser là où il est, voire même, tu as ajouté tout à l'heure, d'en faire la faille nécessaire. Je trouve ça très intéressant. Pour passer au plaisir, questionner la place du plaisir qu'on peut trouver dans une école de psychanalyse. Et là, je te cite, « L'implaisir qui m'y attache encore et toujours est celui qui me procure. Que me procure la lecture de Lacan, une lecture qui est pour moi une source indéfiniment renouvelée de ce que j'oserais appeler des effets de vérité, des éclairs. » Alors ça, il me semble que ça réouvre une question qui est finalement, qu'est-ce que lire Lacan ? On a cette question-là. Qu'est-ce que ça pouvait emporter comme enjeu éthique, hein ? Et à propos de ces effets de vérité que tu évoques, je disais, est-ce que ce ne sont pas toujours d'abord des effets de désorientation ? Lacan avait dit un jour aux étudiants de Vincennes, je veux vous désorienter. Je trouvais que ce n'est pas rien. Là où on fait grand cas, beaucoup à partir de la dite orientation lacanienne. Alors, je me posais la question, finalement, comment dans une école de psychanalyse faire place aussi à cette désorientation, là où précisément le transfert au chef, ça conduit toujours à la bonne orientation pour tous. Voilà. Voilà.
Peut-être que vous allez répondre en premier, puis je poserai mes questions après, hein, parce que sinon...
J'avais une autre question sur la haine, sur l'après-transfert de haine par Marie-Noëlle Jacob. Alors c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Parce que, alors, le dire, la haine ça s'adresse à l'autre en tant qu'il est autre. Et sans dire, on ne peut pas dire qu'il n'était pas d'exception à l'époque. Hein. Donc...
ça rejoint ce que tu disais, sur la forclusion de l'altérité.
C'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'altérité, ce qui reste aux analystes, quand ils ont terminé, c'est-à-dire l'altérité symptôme, c'est ça qui déclenche la haine. Voilà. Alors, si je réponds aussi à la question de Marie-Noëlle, mais bon, elle a demandé à ce que j'y réponde. Hein ?
Oui.
Alors, La question Marie-Noël concerne justement, on ne voit pas pourquoi une psychanalyse ne finirait pas par la haine. Elle pense que à la fin d'une analyse...
Attends, il faut être plus précis. Elle dit, si, elle a l'air de tenir pour acquis,
oui,
une analyse dévalorise la jouissance,
c'est ça,
alors comment elle pourrait finir par la haine?
C'est ça, ça c'est beaucoup plus précis. Ouais, alors, évidemment, c'est sa question à elle, et ça m'a ramené, je répondrai par là, elle l'entendra si c'est enregistré, à son témoignage de base, où il est question, ben vous pouvez le lire, c'est dans Wunsch 16. Vous lirez parce que c'est très intéressant. Parce que ce n'a pas été son cas à Marie-Noël, M-N-M-N. Avec son T-N-T. T-N-T. Voilà. Explosif. Le T-N-T explosif. Elle dit qu'il s'est réduit pour elle, en fin d'analyse, à sa lettre, et ça devient un TNT pétard mouillé. C'est très joli, moi, ça m'a beaucoup parlé. Alors, ce qu'elle dit, elle dit ça, elle dit donc que ça fait déchoir les promesses de la haine. C'est ça qu'elle dit, hein, dans son témoignage. Ah, si je comprends bien, elle a fait déchoir la jouissance haineuse. Elle dit pour servir à l'humanisation. Ça, c'est, vous lirez ça, c'est dans le fond. Alors, qu'est-ce que ça peut donner? Je répondrai, qu'est-ce que ça peut donner au niveau de notre collectif, où il n'y a pas justement d'identification possible à un signifiant de l'être analyste. Alors, si la haine n'est pas explosive dans notre collectif, ben, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, quand même. Où on bavarde les uns sur les autres, sur l'être de l'autre, avec une certaine cruauté parfois. Et moi, pire pour moi, c'est l'indifférence affichée. Bon, alors, ça tient aux épars des assortis que nous sommes, quoi. Dans un lien de réel à réel, je dirais. En tant que des assortis, chacun avec son symptôme. Alors, on finit toujours par viser imaginairement ou moquer le style d'un tel ou d'un autre qui porte justement quelque chose de sa jouissance symptomatique. Et je pense que la haine qui était adressée à Lacan, c'était du même ordre. Alors, il me semble, moi, que le transfert de travail, justement, j'insiste là-dessus, est un remède à ce que le temps, on a aussi parlé du temps, des épargnes des assorties, mais en temps, ça engendre ça, je dirais, plus dignement, l'amour de transfert de travail, qui fait lien entre analysant. Voilà. Pour sublimer justement ce qui est d'irréductible envers l'autre. Bon. Alors, j'avais repris dans l'article de Colette, ce transfert après d'ailleurs, du numéro 38. J'avais repris, parce que je l'avais également lu, la haine, ça correspond à l'invalidation de l'hypothèse du transfert propre à la cure, en fin d'analyse. Et il me semble que Lacan fait référence, quand il dit ça, à la haine qu'il dit lucide, justement, celle qui est le support de Yadla. Il dit que cette haine lucide est le support de Yadla dans le séminaire insu. Et ce y a l'un tout seul, effectivement, qui exclut le rapport sexuel. Donc, si l'horreur de savoir d'un rapport sexuel a été dépassée, c'est quand même une des conditions de la fin, eh bien, alors, en effet, logiquement, à mon avis, cette lucidité propre au sentiment de haine peut possiblement, on ne voit pas pourquoi non, advenir, je pense, pour répondre sur la haine. Là.
Oui, ben, j'avais plein d'idées sur la haine.
Ben, par contre, il faut relire votre article
si on a le temps. Oui, mais là pour ce soir. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la haine est une forme de l'hétérité. Je crois que la haine, c'est le contraire. La haine reconnaît l'hétérité,
oui, c'est ça,
et veut la supprimer. C'est pas du tout pareil. Hein. Il y a de la reconnaissance dans la haine. La forclusion de l'hétérité, si on cherche un affect qui forclôt l'hétérité, vraiment, pour moi, c'est l'indifférence. L'indifférence. L'indifférence, alors ça, c'est le vrai mur. Mais la haine, c'est quand même relationnel encore.
C'est un sentiment.
Oui, c'est pas un sentiment. Oui, l'indifférence.
C'est pas un sentiment.
Si, bien sûr, indifférent. Enfin, non.
Pas un sentiment.
Oui. Alors, quelle était la question de David, est-ce que le groupe ne peut pas être autre chose qu'un cercle identitaire? Non, il ne peut pas être autre chose, mais je reprends l'idée de Lacan, l'école du un par un, sans résoudre le problème du groupe, ça, on est bien tous d'accord que ça, il ne va pas le résoudre, sans résoudre le problème du groupe qui est insoluble, l'école du un par un se met un peu en travers, c'est-à-dire instaure dans le groupe une autre dimension, cette dimension qui est celle du transfert de travail. Alors, on peut le dire de toutes les façons, dire bon, un plaisir c'est ça, c'est une façon de dire ça aussi. Ça se met en travers, et c'est ça qui distingue nos collectifs. Parce que le mot collectif, l'inconvénient du mot collectif, c'est qu'il ne dit pas quel collectif, parce qu'il y en a quand même des divers de collectifs. Alors que l'école, c'est un collectif, quand même. L'école est un collectif qui n'est pas le groupe, elle est dans le groupe, se met un peu en travers, mais ne résout pas les problèmes de groupe. Alors, là-dessus, effectivement, occupons-nous de l'école. Des un par un, et, mon Dieu, supportons autant qu'on peut les difficultés de groupe. Si on peut, sans les augmenter plus que ça. Alors, sur la question...
Juste assez pour s'occuper. Juste assez pour s'occuper, disais-je.
Oui. D'accord. Et puis il y a des différences individuelles. Il faut bien dire qu'il y a des gens qui ont la passion du groupe. Il y en a qui ne l'ont pas, ou moins. Bon, alors là, on ne va pas changer ça non plus. La question de retour à Lacan serait une très vaste question. Je ne sais pas pourquoi j'aurais une réserve à employer l'expression retour à Lacan. Parce que j'ai l'impression que Lacan n'a jamais été, est jamais passé derrière, comme Freud était passé derrière pour l'IPA, si on suit la thèse de Lacan. Alors, oui, par contre, il y a la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que lire Lacan? Comment il faut lire Lacan? Qu'est-ce qu'il faut lire Lacan? Moi, je suis très... focaliser sur l'idée, je partirai pour le dire, de ce que Lacan a dit lui-même, de ce que c'est qu'un enseignement, un vrai, digne de ce nom. Il a dit cette phrase qui peut paraître étrange, c'est un enseignement qui ne s'arrête que sur son propre mouvement. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est un enseignement qui a un mouvement propre, ça veut dire des questionnements propres, qui avancent sur ces questionnements de questions en réponse, en construction, et il ne s'arrête que sur son propre mouvement. Et moi, mon idéal, ce serait c'est, quand je lis Lacan, c'est de capter le mouvement propre de cet enseignement. Parce que des thèses, il y en a, elles foisonnent. On peut dire le Borromée à la place de structure, par exemple. C'est exactement la même chose. On peut remanier tout le vocabulaire. La question, c'est la direction. C'est le mouvement, c'est à quoi ça répond.
Et les reformulations que ça autorise.
Alors, oui, moi j'ai parlé de ça, je pense qu'il faut. Je ne sais pas si c'est le bon mot, il faut traduire. Il faut traduire, il ne faut pas répéter ce que dit Lacan. Il faut rester dans le mouvement et si on peut, quand on peut, essayer un mouvement de traduction. Il faudrait à la limite, chaque fois qu'on répète une expression de Lacan, non là je vais exagérer, hein, mais c'est pas grave, il faudrait, chaque fois qu'on répète des expressions, et on ne peut pas s'empêcher de répéter, hein, parce que c'est une richesse telle, il faudrait se demander comment je peux le dire autrement. Comment dire autrement, tout en sachant qu'il n'y a pas de vrai synonyme. Hein.
La traduction est une trahison.
Oui, non, mais là, c'est pas une traduction. De toute façon, toute lecture est une trahison. Une lecture est toujours une trahison. Si on veut. Alors j'aimais bien l'expression désorientée. Je cherche à vous désorienter, bien sûr, puisque si le discours analytique existe, il désoriente le discours commun. Donc il a dans la salle des sujets de son temps, chaque fois qu'on parle en public, et si dans son enseignement il arrive à faire valoir l'existence du discours analytique, forcément il désoriente. Et donc, dire Lacan autrement, en gardant le mouvement de désorientation, hein, c'est-à-dire sans entrer dans la séduction du discours d'époque. Traduire Lacan, pour moi, ce ne serait pas du tout fabriquer un discours que tout le monde peut entendre. Fabriquer un discours pour les gens qui n'ont rien à faire avec la psychanalyse, parce qu'il y a ce risque-là aussi. C'est le risque de ce qu'on appelle la vulgarisation, en quelque sorte. Bon, c'est le retour à Lacan, on peut y penser beaucoup, je ne vous réponds pas beaucoup là-dessus.
Oui, un mot.
Oui, vous allez intervenir. Oui, je passe devant les arrêts. Patience.
Oui, rapidement. D'abord, merci à Colette. Moi, les embarras, je pensais évidemment aux embarras dont on se plaint. Je parlais des embarras dont on ne se plaint pas. Ceux qui tiennent au fait que les embarras dont on ne se plaint pas, c'est ceux qui effectivement garantissent.
Ce sont des bénéfices.
Oui, absolument, qui garantissent l'identité. Alors évidemment, on se dispute, mais pendant ce temps, chacun est quand même chez lui d'une certaine façon. Et c'est comme dans les familles, finalement. Forclore toute figure d'adulte, ça c'est très mal. On est tous d'accord, personne n'est raciste parmi nous, personne ne déteste l'altérité, nous adorons. Mais, tous, obligés. Mais quand même, il y a une façon de.
Nous en faisons une valeur, en fait. Hein? C'est pas qu'on aime, on en fait une valeur.
Oui.
Enfin, un arbre de Noël, quoi.
La différence, c'est ça,
arbre de Noël. Et en fait, il y a une forme de conclusion d'altérité qui est quand même beaucoup plus répandue chez vous, c'est la tolérance. La tolérance au point de vue divers. Alors, il est arrivé un jour de dire qu'il y avait des maisons pour ça. On n'est pas des écoles d'analyse.
C'est Claudel qui a dit ça.
Non.
Avec Claudel l'a dit aussi.
C'était une citation. Justement, j'ai utilisé cette citation pour en différencier de la tolérance analytique. Et ça pose quand même la question entre intolérance dogmatique et tolérance à tout, parce qu'il y a des associations, je ne vais pas les citer, mais bon, la tolérance est la valeur première. Imaginons quoi, on peut dire ce qu'on veut, ça n'a aucune importance et aucune conséquence. C'est là le vrai danger, me semble-t-il. Une tolérance qui nivelle tout. Et la difficulté, c'est évidemment trouver des formes de débat qui fassent que les intervenants ne se sentent pas blessés dans leur être d'analyste si ils trouvent qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec eux. Et c'est très très difficile quand même. C'est vrai qu'on connaît avec des difficultés très particulières au débat analytique. Je ne sais pas si ça peut se résoudre. Et un dernier point pour la lecture de Lacan. Moi, ce qui m'épate chez Lacan, c'est que ce type, en 54-55, aurait pu s'asseoir, prendre sa retraite, c'est l'âge, aujourd'hui en tout cas. Il avait expliqué ce que c'était que la psychanalyse, c'est parfaitement dit dans ses textes, et il a continué jusqu'à son dernier souffle à reposer la même question, indéfinie. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Qui est de fait une expérience, ça existe, indiscutable. On laisse parler quelqu'un, il vous parle de son papa, de sa maman, il commence à éprouver des choses pour vous, ça marche tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce Il s'est cassé la tête pour essayer de rendre compte de ça. Moi, je trouve ça épatant, c'est ça qui m'énerve chez Lacan. Voilà ce que moi, j'appelle la lecture de Lacan.
Moi, j'ai préparé deux questions, puis je passerai la parole à la salle. La première, c'était concernant la formule de Lacan, à ceux qui m'aiment encore, qui, moi, me laisse assez perplexe. Stéphanie et Nicolas, qui l'a cité dans votre intervention. Donc, comment interpréter cette formule? Et je me demandais jusqu'à quel point, dans les groupes lacaniens, n'étaient pas un peu captifs de cet amour. Donc, sinon, l'autre question, c'était sur l'identification aux symptômes. Elisabeth, ta mère, disait dans son intervention à la première séance du séminaire que c'était une mauvaise affaire pour nos entreprises collectives. Et moi, je me demandais si au contraire, ça ne faisait pas lien. Dans la mesure où, dans le fil de son symptôme, chacun, justement, un par un, travaille, creuse son sillon. Et alors, donc, ça, c'est une question à Colette. Est-ce que justement que chacun creuse son sillon, ce n'est pas ne permet pas d'éviter la gélification de la langue de Lacan? Voilà.
Ceux qui m'aiment encore, c'est tout simple, ça veut dire ceux qui me prennent encore pour sujet supposé savoir. C'est ça que ça veut dire. Il parlait à ceux qui continuaient à le suivre. C'est-à-dire qu'ils le prenaient encore pour leur un sujet supposé savoir, comme nous le faisons maintenant, encore. L'amour s'adresse au sujet.
Au savoir.
Au savoir. Il s'adresse au sujet supposé savoir. Celui qu'on suppose savoir, on l'aime. C'est bizarre, mais...
Oui, ça résonne différemment tout de même que la formule à ceux qui me suivent. Enfin, entre suivre...
Oui, ben, y a des... Lacan, ce qu'il y a de bien, c'est que quand il dit la même chose, il ne dit jamais pareil. Il est dire très différent de nous de ce point de vue-là. Très différent de nous parce que très souvent, on voit bien qu'il est sur les mêmes thèmes, et il trouve d'autres expressions. Ceux qui le suivent, c'est les mêmes que ceux qui l'aiment encore. C'est exactement la même thèse. Hein. C'est ceux qui le prennent pour le 1 du S barré. Sujet supposé savoir. Non, pour moi, ce n'est pas un problème, ça, ceux qui m'aiment encore.
Peut-être connaître, faire une distinction qu'il a faite lui-même, justement, quand il disait à un moment son aspiration à être autre enfin, tout à la fin, distinguer sa personne et son enseignement. Quand ma personne ne fera plus écran à mon enseignement.
Oui, mais c'est ça quand il dit.
Oui.
Il pensait que c'était quand il serait mort.
Oui, oui, ça dit, il évoquait le cas. Mais ça laisse entendre, ça veut dire au fond qu'il y a ceux qui l'aimaient encore, c'est pas nécessairement uniquement aimer sa personne.
Ah,
on peut distinguer, je distingue justement l'enseignement de la personne.
Non, moi je me posais la question à vrai dire. C'est parce que ceux qui sont, c'est l'idée du
salut. Non, mais pour des choses évidentes,
le micro, le micro.
Il y a ce que Lacan voulait dire, et il y a ce que comment ça peut être attrapé par. Par ceux à qui il s'adresse. Alors, pardon, sur le point de chacun son symptôme, bien entendu, on le répète, mais tout le monde le sait, c'est sûr, chacun son symptôme, chacun son acurat, chacun son neuroméa, chacun. Ok, bon. Chacun donc son unicité, voilà, bon. Son unicité nodale, si on veut, etc. Bon. Donc chacun, dans le travail, creuse son sillon, et c'est très bien. C'est très bien. C'est d'ailleurs ce qu'on dit quand on dit « restons analysants ». Il n'y a pas d'analysant sur la grande route commune. L'analysant, il est toujours sur son sillon propre. Alors tu dis, est-ce que ça, tu dis c'est positif, moi aussi, je dis c'est positif, mais tu te demandes si ça ne pourrait pas ranimer, renouveler la langue de Lacan.
J'ai dit, éviter sa gélification.
Éviter, ça n'en prend pas le chemin. C'est un fait, là c'est un fait.
Peut-être qu'on ne creuse pas assez chacun notre sillon.
Peut-être. Peut-être que quand on creuse son sillon...
Enfin,
quand on creuse son sillon, pour faire reconnaître son sillon, puisque nous sommes dans du collectif, quand on creuse son sillon dans l'analyse, il y a quand même dans la position transférentielle de l'analysant le vœu d'être approuvé par son analyse, le vœu d'être reconnu par son analyse. Dans le collectif, c'est pareil. Quand on creuse son sillon, on aimerait bien que d'autres le reconnaissent, que ce sillon, il vaut le coup.
Ah, évite de le piétiner, en tout cas. Évite de le piétiner.
Oh, oui, alors on aimerait bien faire reconnaître son sillon. Et pour faire reconnaître son sillon, qu'est-ce qu'on fait? On met le paravent des citations, la cahier. Et quelquefois, c'est difficile, quand on lit un texte, de voir, sous les citations, quel est le sillon. Vous n'avez pas cette expérience? C'est-à-dire, au total, à la fin, se dire, qu'est-ce qu'elle a dit ou qu'est-ce qu'il a dit, finalement. Parce que nous avons acquis, c'est un effet de groupe, ça, la gélification, la congélation du vocabulaire. Nous avons acquis un vocabulaire commun, donc nous avons l'impression qu'avec ce vocabulaire, on est davantage dans l'échange, dans l'interlocution, c'est un problème d'interlocution. Et donc, voilà, c'est le sillon masqué.
Bon, je reposerai peut-être d'autres questions après, mais je vais passer la parole à la salle tout de même. Donc, Patrick.
Attention, on va trouver ça. Attention, vite.
Je vais tâcher de rester sobre et court.
Sobre et court.
Sobre et court. Alors, je vais répondre sur comment je vais faire. Je vais pas dans le micro. Vous n'entendez rien?
Non.
Si. Donc, je vais intervenir sur trois points. Comment lire Lacan? Qu'est-ce qui se passe dans un groupe? Et j'ai déjà oublié l'autre centaine. Et sur la haine, voilà. Donc, je vais commencer par la haine. Hein, dont Lacan dit que c'est le seul sentiment lucide. Et quand on a eu la chance dans sa vie d'avoir éprouvé la haine, pas forcément pour quelqu'un, mais la haine, vraiment la vraie haine, et bien quand on avance dans la haine, on s'aperçoit que c'est nous-mêmes que nous haïssons, parce que nous nous mettons à la place de l'ordure que nous sommes chacun. Ça, c'est un truc de Lacan. Hein. Considérons maintenant une école. Lacan dit que ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est de faire avec la foule un corps. Alors, on a eu un exemple dans l'actualité récente de cette histoire qui s'est passée en Afrique. Deux crétins ont voulu aller voir des éléphants. Ça s'est terminé tragiquement. Il a fallu que deux soldats français de haut niveau soient tués. Et on a vu la réaction que ça a eue sur le corps, justement. Une foule qui est devenue un corps pour rendre hommage à ces hommes qui étaient morts pour aller chercher ces deux types et qui ont laissé leur peau. Ça s'est fait, c'est un événement national, c'est très important. Alors vous parlez du sillon, je vous rappelle le sillon de la Marseillaise, hein, quand même.
C'est
impur, la preuve de le sillon. On est comme ça, hein, on est comme ça. Et puis le troisième point, le dernier, c'est Lacan. Qu'est-ce qu'il dit, Lacan ? Il dit « pas moyen de me suivre sans passer par mes signifiants ». Et il illustre, quelques années plus tard, ça c'était dans le séminaire sur les quatre constats, et c'est là-dessus qu'il est accroché Lacan. Moi. Je me suis dit « je vais le lire en passant par ses signifiants, je ne lâcherai jamais ». Et puis, il explicite ça dans « encore ». Alors, je ne vais pas parler de Lénine et de Marx, parce que bon, Lénine, on sait ce qu'il est devenu. Freud, Lacan ne sont pas couplés dans l'être, mais c'est par la lettre qu'ils ont trouvé dans l'autre qu'ils procèdent, non, qu'ils ont trouvé, qu'ils procèdent dans un autre supposé. C'est-à-dire qu'il explique un couplage qu'il fait avec Freud. Ben, peut-être que c'est ça dont il s'agit, dans ce que vous appelez le transfert de travail. C'est-à-dire que pour transmettre des bouts de savoir, il faut savoir se coupler avec quelques-uns. Ce que représente, c'est le travail de cartel. C'est ça le cartel. Je ne suis pas certain que dans cette école, les cartels ont beaucoup d'importance. Je ne suis pas sûr. Je trouve qu'on a beaucoup de personnalités qui parlent à la tribune, mais les cartels, le jeu du cartel et les permutations, je ne suis pas sûr que ça a été très, très, très exploité dans notre collectif. Je sais comme ça, peut-être que j'ai tort, mais moi j'ai toujours fait des cartels dans cette école, et on n'a jamais eu d'écho de ce qu'on faisait, voilà, c'est tout. Quoi. Voilà, c'est tout. Vous voulez que je vous dise ?
C'était une question ?
C'est très intéressant l'idée qu'on peut manquer de haine.
Hein ?
C'est très intéressant l'idée qui était présente dans ce que vous disiez qu'on peut manquer de haine. Hein? Parce qu'on parle toujours de la haine comme d'un fléau. Et il y a une positivité, Lacan le dit d'ailleurs. Un problème, dit-il, de notre temps, c'est qu'on n'a pas mis la haine à sa place. Bon. Et donc, bon, il y a un thème à creuser, j'en suis beaucoup.
Bon, j'ai pas de question, mais j'ai un micro.
Profite-toi.
Merci pour les interventions. Merci. Pour l'enfant. J'ai été un peu frappé par un contraste quand même assez sévère, je dirais, entre les positions de Colette et de Marc sur, justement, Colette, congélation autour des formules, enfin, le refrain qui, à un moment donné, apparaît et qui nous laisse parfois perplexes. On ne sait pas pourquoi on donne une citation de Lacan et puis on n'explique pas trop. Donc, bon, voilà, un certain pessimisme, je dirais, de cette idée de congélation. Et puis, toi, Marc, tu disais plutôt, enfin, un dégel permanent. Enfin, On trouve toujours son compte à relire et à réinterroger les formules de Lacan, ce qui est juste, mais c'est un peu, disons, le plus optimiste. Quoi. Et ma question,
non, parce qu'il parlait de lui. Oui. Il parlait de lui, moi je parlais du collectif, et pas seulement de notre collectif à nous, du collectif du monde lacanien.
Oui, le sujet du collectif, bon,
la congélation, sinon, elle est patente. Si
ma question, c'est plutôt, enfin, autour de cette affaire de congélation, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est une inertie, enfin, qui va poursuivre encore un siècle les lecteurs de Lacan, c'est pas exclu, hein, ou autre chose, voilà.
Non mais attends, un lecteur de Lacan et congélation, c'est pas la même chose.
Lecteur et analyste congélé
peut-être, mais lecture et congélation, non, c'est pas la même chose. Non, je dis ça par rapport à l'invocation qui est souvent faite, on parle trop de Lacan et pas assez des autres auteurs, il y en a d'autres, il faut voir.
Non, je parle de ça, des analystes lacaniens qui parlent et qui étudient Lacan,
c'est ça.
Très précis, non?
L'usage de la citation, par exemple.
Voilà.
Oui, d'où ça vient, ça? Il doit y avoir beaucoup de facteurs. Oui, alors il y a des questions, là. Il faut
Il m'est arrivé récemment de relire un compte-rendu, les actes d'une de nos journées, du début de la création de l'école. Je dois dire que quand j'ai quitté le CF, je n'en pouvais plus de recevoir des publications dans lesquelles je ne comprenais rien du charabia que je lisais. J'ai relu avec plaisir les actes des journées sur les traumatismes, donc 2004, où toutes les discussions avaient été retranscrites, et je dois dire que c'est un plaisir. Je comprends tout. Je comprends tout. Je lis les choses avec plaisir et j'ai dans l'idée que les gens parlent de chacun à leur façon. Et c'est vrai que depuis quelques années, je retrouve dans nos publications le même charabia. J'exagère un peu, mais le même charabia que je trouvais à la fin. Alors, je pense qu'il y a tout à coup, il y a une dérive au bout d'un certain temps de bien entendu entre nous, on sait de quoi on parle, alors c'est peut-être inévitable à tout collectif qui ne fait pas attention, ou chacun ne fait pas attention à la façon dont il prend la parole en son nom propre. Alors, voilà, c'était juste une remarque dans le fil de ce que vient de dire Radu. Marc, à propos de la courtoisie, qui pour moi fait écho à la politesse.
Oui, mais c'est loin d'être ça.
Non, c'est pas ça. Alors, justement, j'ai dans l'idée que la politesse, ça s'apprend avant d'arriver en analyse. Et que, ou même avant d'entrer à l'école, je dirais. À l'école, oui, avant d'aller à l'école primaire, l'école maternelle. Et donc là, il y a un point qui ne bougera pas. Par contre, je voudrais que tu reviennes sur ce qu'est la courtoisie et la possibilité de devenir courtois.
J'avais une question. C'était pour partager une hypothèse sur peut-être aussi le facteur honnêteté intellectuelle de citer ses sources. Et c'est vrai que c'est une source importante pour nous, Lacan. Oui, mais...
Oui, mais ça contribue à la...
Et...
je vais renvoyer à la page 400 machin des techniques. Je ne vais pas reprendre.
Je voulais juste intervenir sur deux points. Non, mais tous les points sont dans le sens. Mais c'est pour nos collègues, c'est la courtoisie.
Depuis longtemps, j'ai deux choses à dire. C'est vrai qu'on parle souvent de Lacan, Freud, et je me suis... Pourquoi on ne pourrait pas aussi voir... Enfin, moi, je ne sais pas, je suis tombée sur le cas de Joe de Bettelheim, par exemple. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà. Bon, je vais peut-être en choquer, mais ce n'est pas grave. Pourquoi pas aller voir ailleurs, hein. C'est toujours, enfin moi c'est quand même une question que j'ai de s'en remettre qu'à une personne, même si elle est fabuleuse et formidable. Voilà. Ça, moi ça a toujours été une question depuis que j'ai été à l'université. Et elle restera. Hein, parce que vous parliez de ce phénomène de maître, ça me questionne. Et la deuxième, je voulais faire une remarque par rapport à la lecture. Si vous me permettez de faire un témoignage. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste. Mais il y a un moment, quand j'ai lu Lacan, je me suis dit, merde, c'est de la clinique. Voilà. Et ça a changé mon rapport un peu au savoir. C'est-à-dire, je ne lisais plus Lacan comme une Bible, mais comme un élément, comme quelque chose qui pouvait alimenter notre recherche, je ne sais pas, voilà.
Qu'est-ce que vous appelez lire comme une Bible? Il y a mille façons de lire une Bible.
Voilà, non mais c'est juste un témoignage. Voilà.
Mais oui.
Normalement, quelqu'un qui se dit lacanien devrait avoir lu tous les psychanalystes dont Lacan parle. Et donc, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Oui.
Sauf que c'est impossible.
J'ai pas dit lu tout ce que Lacan a lu. J'ai dit avoir lu tous les psychanalystes qui... Rien qu'en lisant ce qu'il a commenté, on fait un grand tour. Mais évidemment, pas sur les actuels, sur ceux qui ont constitué le mouvement avant lui et en même temps que lui. Mais je ne sais pas si on peut reprocher actuellement aux lacaniens de ne pas... je trouve que c'est un reproche antique, ça.
Alors, je ne sais pas...
excusez-moi, vous parce que dites, c'est d'après votre expérience, bien sûr, mais... oui. Et donc, chacun parle d'après son expérience. D'après votre expérience, vous trouvez que les lacaniens, peut-être, ne parlent pas assez d'autres analystes. Moi, je trouve qu'ils en parlent beaucoup. On vient de voir paraître un livre où on nous explique que sans Dolto, il n'y aurait pas de Lacan. On a beaucoup travaillé sur, quand même, Winnicott, Mélanie Klein, Bion, Ferenczi, Banit. Donc, il y a quand même... On ne peut pas s'avancer avec Lacan sans
tout ça. Sans tout ça. Mais on n'entend pas... Mais par exemple, quand on lit Lacan, j'ai lu très peu, mais par rapport à ce qu'il peut dire.
On parle de Lacan parce que c'est plus facile.
Ouais. Non, mais je sais pas.
Quand on lit les autres auteurs, on est dans des nuages, on est dans des élucubrations, dans des choses comme ça. Moi, je voudrais intervenir pour faire un
rapport
majeur, parce que. Je vais essayer de vous dire la même chose.
Pas de micro.
Vous êtes à la
micro.
vous lisez vos textes, donc vous ne prenez pas la parole. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça se passe dans les colloques, ça se passe partout maintenant. Vous avez établi un style dans cette école qui est qu'on lit un texte, un public, et on ne parle pas. Donc vous tenez le crachoir pendant un certain temps et on n'entend pas de parole, il n'y a pas de parole. Évidemment, quand on commence à s'engueuler un peu, ça commence à bouger un peu. Évidemment, il était très courtois, hein, il traitait... il traitait un analyste très connu à Paris de la bouse de vache qui rit. Il traitait Anna Freud de chure de mouche. Et il en a dit d'être plein comme ça. Hein. On est trop poli, tu comprends. Toi, tu nous proposes un code de déontologie. C'est vrai qu'un médecin ne peut pas s'injurier parce qu'on a des ennuis pour des médecins. Mais avec les psychanalystes, pour que de temps en temps, on s'en dans le
Juste un mot, si vous permettez, pour tout ainsi, cher Patrick, autant que moi. Deux références. Il y a deux références pour tout ainsi, au moins dans les écrits. Une, quand il parle de son débat avec Henriet, où il parle des formes courtoises d'un tournoi de la parole. Donc c'est quand même pas tout le monde est d'accord et le code de déontologie, c'est pas ça le rêve de la courtoisie. Tout comme dans la situation de la psychanalyse, il évoque les leçons de tablature des arts courtois dont les débats des psychanalystes pourraient s'agrémenter heureusement. Et moi je considère qu'effectivement il y a un problème concernant les débats chez nous. Voilà, c'est tout.
Bah, il y en a pas. Parce qu'on ne peut pas faire. Pourquoi il n'y en a pas? En fait, c'est pas comique ce que je dis là. Il n'y en a pas parce que ça n'est pas possible. Puisque chacun pense, lit, parle. Avec son symptôme, son fantasme fondamental. Et on ne fait pas débattre ensemble des symptômes et des fantasmes fondamentaux. Et donc, dans la psychanalyse, au mieux, on peut écouter ses collègues. Ça, on peut écouter et on peut apprendre quelque chose parfois des collègues. Ne rien apprendre aussi, ça ne me parle pas, comme on dit, ça ne me parle pas. Donc ça, c'est possible. Ce n'est pas de la courtoisie, c'est simplement du lien normal. Mais ça ne fait pas un débat. Les débats, si vous voulez, du genre les débats des philosophes entre eux. Il y a encore, j'ai eu l'occasion d'assister récemment, dans une université, ce n'est pas à Paris, je vous le dis tout de suite, dans une université, il y a encore, entre les philosophes, un semblant de débat malgré tout, une argumentation, vous avez dit ça, et puis ça, est-ce que ça peut aller ensemble? Est-ce que la cohérence y est? Cette référence, elle est incomplète? Bon, ils arrivent encore, dans l'espace de la philosophie dans l'université, à avoir quand même des échanges qui portent sur le texte même qu'ils ont émis. Nous, c'est très difficile parce que le texte, c'est le sillon de chacun. Alors,
c'est difficile, c'est certain. Est-ce que c'est véritablement et définitivement impossible? Que l'accord.
C'est pas impossible, ça fera exploser le groupe. Ça fait exploser les groupes. Là où ça se fait, ça fait exploser les groupes. Regardez l'accord. Regardez l'histoire de l'accord. Vous lisez le texte, remarque sur le rapport de Daniel Lagache. J'avais expliqué ça il y a longtemps à quelqu'un qui s'en étonnait. Hein.
C'est du brutal.
Vous lisez remarque sur le rapport de Daniel Lagache. C'est un texte très intéressant, à la fois historiquement et théoriquement. il y a de grands apports de Lacan là-dedans. Mais c'est un assassinat. C'est un assassinat de Daniel Lagage en tant que théoricien. Il ne reste rien de Daniel Lagage quand on arrive à la fin du texte.
Et comment
voulez-vous qu'après ça, ça ne se scissionne pas? Et donc, bien sûr que ce n'est pas impossible au sens d'un impossible structural. C'est possible, mais c'est un affrontement, ça conduit à des affrontements qui foncièrement sont symptomatiques. Affrontement de symptômes.
Est-ce qu'il n'y a pas des degrés là?
Quand il s'adresse, quand il va à la réunion par des petits sujets, des suffisances, des compagnies, on ne peut pas dire que ce soit de la courtoisie. Dégommage au canon.
C'est clair.
Seul,
un petit mot sur le débat. Je suis très intéressée par ce que je viens d'entendre. Je n'y avais pas pensé en ces termes, je suis d'accord. Et je me dis que peut-être qu'il y a une petite exception dans les cartels. Il me semble que l'expérience des cartels que j'en ai, en tout cas, montre que parfois, dans un cartel, il y a quelque chose qui ressemble à un débat de possible, sans que ça explose.
Moi, j'irais assez volontiers dans ce sens. Et dans le cartel, c'est du un par un, en fait. On est un avec deux, trois autres, c'est pas beaucoup, et c'est plus favorable pour le débat. Mais on connaît bien aussi tous les cartels qui explosent. Parce que un tel a fait un exposé comme ci, comme ça, et que c'est devenu intolérable aux autres. Ça existe aussi. Mais quand un cartel explose, je dis explose, en fait il n'explose pas. Il se dissout et puis les sujets font d'autres cartels.
Bon, Jean-Pierre, encore. Alors, Jean-Pierre, encore une question. Et puis après, juste avant, je fais une annonce.
C'est une question que j'ai personnelle. Je suis tombé dernièrement sur la réédition chez moi de la question de la psychogénèse, de l'organogénèse dans la psychose et la névrose. Donc, un débat entre Henri et tenant l'organogénèse. Bonavé, on pourrait dire, tenant la sociogénèse, et Lacan, tenant de la psychogénèse. Et la courtoisie de ce débat, la hauteur de vue de ce débat, est surprenante. Celui qui fait le rapport sur les thèses de Henriet, c'est Lacan. Hein, et il y a un contre-rapport, une réponse, etc. Et c'est un débat de très haut niveau, très courtois, sans aucun mot d'oiseau sur 400 pages. La question que je me pose, aucun mot d'oiseau.
Les conséquences, quand même.
Peut-être. Mais la question que je me pose, c'est qu'à la même époque, effectivement, Lacan assassine Lagage. En fait, ça a commencé
avec. C'est pas la même époque, quoi.
En peu de choses près, ou après. Mais ça a commencé avec Freud. Depuis le début de la psychanalyse, effectivement, comme je le faisais remarquer, les psychanalystes ne cessent de s'assassiner entre eux. Les débats sont très sévères. Alors, est-ce que c'est uniquement lié aux symptômes en jeu pour chacun et à la question en jeu pour chacun par rapport à la psychanalyse, ou il y a plus autre chose plus structurelle dans le discours analytique qui fait que nous sommes capables de débattre avec l'extérieur et que nous avons tant de mal à débattre entre nous?
En tout cas, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que Lacan, à ce moment-là, devait ménager Henri. Il n'y va pas au marteau. Hein.
Mais il dit quand même que sa théorie est fausse.
Oui, oui.
Il est invité.
Beaucoup de ménagement.
Brique par brique, il met le truc par terre quand même. Il reste rien de Henri.
Il y a des positions théoriques.
Oui, mais il est gentil. Mais ça n'empêche pas la courtoisie dans la manière de tenir la reconnaissance de ce que peut apporter.
D'accord, mais je suis en train de dire que c'est parce qu'il y avait une intention de ménagement. La courtoisie, c'était une intention de ménagement. sur le même endrier, vous prenez la petite phrase. Ben oui. D'ailleurs, elle est tellement petite que beaucoup ne voient pas que ça renvoie à Henriet. Quand il fait de l'ironie sur ceux qui s'imaginent que c'est par la colonne vertébrale que... il est en train de parler du rapport homme-femme. Ouais. Et il fait de l'ironie sur ceux qui s'imaginent, et il vise l'organodynamisme exactement, très méchamment, que c'est par là que... La femme attire vers le haut, on comprend qu'il est en train de parler de l'érection et des causes de l'érection, il se moque de l'organodynamisme, alors là, sans courtoisie, mais il n'a plus de raison de ménager Henriet à cette époque. Et donc, on doit se dire que dans une école, pour que l'école puisse exister dans le groupe, il faut se ménager les
uns
les autres. Parce que si on ne se ménage pas, on met le lien en péril.
Oui, mais contredire quelqu'un, c'est le ménager aussi.
Mais oui.
On n'est pas d'accord avec quelqu'un qui développe un thème et qu'on l'attaque, même si c'est pas bien fait, c'est une façon de le reconnaître.
Mais oui.
On laisse les gens dire des choses, des bêtises. C'est le silence le plus total, et c'est même si quelqu'un qui a intervenu ne sait pas quel est l'écran qu'il a eu dans la salle.
On pourrait faire une expérience une fois. On se met d'accord tout un groupe, on se met d'accord qu'en écoutant tels exposés, on va le ménager en lui disant. Voilà. S'il déconne éventuellement. On fait l'expérience et vous allez voir le résultat.